France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Benjamin Netanyahou plaide pour la formation d'un gouvernement sioniste fort après les élections législatives en Israël. Le Premier ministre sortant a pris la parole hier soir alors que les résultats ne sont pas encore connus. Et selon les sondages, à la sortie des urnes, son parti, le Likoud, est au coude à coude avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz. Ce dernier appelle à la formation d'un gouvernement, lui, d'union nationale. Tout comme Avigdor Lieberman, le chef du parti d'extrême droite, qui serait troisième. En Espagne, de nouvelles élections ont été annoncées. Elles seront organisées le 10 novembre prochain. Ce seraient les quatrièmes en quatre ans. Le Premier ministre Pedro Sanchez n'a pas réussi à former de coalition. La faute, selon lui, aux libéraux de Ciudadanos et à la gauche radicale de Podemos, avec lesquels il n'a pas réussi à négocier. C'est une ancienne figure politique au Venezuela. Edgar Zambrano, ex-vice-président du Parlement, a été remis en liberté hier. Il avait été arrêté pour trahison après la rébellion manquée contre le président Nicolas Maduro en avril dernier. Sa libération est un premier pas vers le processus issu d'un accord entre le gouvernement chaviste et les petits partis d'opposition. Accord qui vise à résoudre la crise politique au Venezuela. 5 milliards d'euros pour les jeunes entreprises françaises pendant les trois prochaines années. Emmanuel Macron l'annonçait hier soir. Il évoque les promesses de banquiers et d'assureurs. Le gouvernement doit également dévoiler aujourd'hui la liste des 40 entreprises technologiques prometteuses en France. Elles seront réunies dans le CAC 40 des startups et pourront donc bénéficier d'un programme d'accompagnement public spécifique. Le ministre de l'Intérieur assure vouloir défendre jusqu'au bout la spécificité du statut des forces de l'ordre dans la future réforme des retraites. Christophe Castaner estime qu'un policier a beaucoup de mal à 62, 63, 64 ans à être sur le terrain avec la même efficacité. Une marche des colères chez les policiers est prévue le 2 octobre prochain. Et puis notons également ces nouvelles projections scientifiques très alarmantes de Météo France. Le scénario du pire prévoit une hausse de 7 degrés d'ici à 2100. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture, sur franceculture.fr. Comment se construisent et se propagent les complots imaginaires?
Il ne convient pas non plus de s'alarmer.
Mécanique du complotisme en podcast original.
J'ai fait une petite enquête.
C'est avec les attentats du 11 septembre 2001 que commence la série. Les avions ne se seraient pas écrasés, les États-Unis ou les Juifs seraient à la manœuvre, les thèses sont innombrables.
Le complot auquel vous faites allusion, André, il est bel et bien existant.
Mécanique du complotisme.
Bel et bien existant.
Décryptage en podcast original sur franceculture.fr et sur toutes les plateformes dédiées.
Allez, bienvenue au Cinéphile en ce mercredi 18 septembre. Nous retrouvons Toufik Hakem à 6h03 pour parler comme tous les mercredis cinéma.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, en direct à la radio le matin ou en podcast, quand vous voulez. Tous les mercredis, c'est l'actu ciné et ce mercredi 18 septembre est riche en sorties de films. C'est aujourd'hui qu'on peut découvrir donc au cinéma, entre autres films, celui de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, et les derniers, James Gray et Woody Allen. Michel Simon de la revue Positif viendra en deuxième partie de l'émission pour nous dire le plus grand bien des deux films américains. américain, Ad Astra donc de James Gray et Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Mais il y a un autre film qui sort aujourd'hui et qu'on vous recommande, une pépite, une étrangeté, un vieux film réalisé en 1962 à Cuba par Armand Gatti et qui n'a jamais été distribué en salle pour cause de brouille entre les producteurs cubains et français. El Otro Cristobal est un parfait OVNI, objet filmé non identifié. Et pour nous en parler ce matin, j'ai invité l'historien de cinéma Antoine Debecq.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Alors Cuba, évidemment, l'aventure était merveilleuse. Parce que alors j'ai pu délivrer tout mon soul en toute liberté. Le même film avait été tourné en France, nous aurions enfin 10 fois ou 100 fois moins souffert. Mais ça ne fait rien, tout cela s'ajoutait. Et en même temps, ce qu'il y a eu, c'est quand même la possibilité de faire un film, disons, délirant, enfin un film poétique, enfin, mais en toute liberté, sans que personne vienne rien vous dire, et construire vraiment ce qu'on voulait construire.
Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Armand Gatti parlant de ce film, El Otro Cristobal, qu'on va pouvoir enfin découvrir.
Absolument, c'est vrai que c'est une pépite qui nous vient comme ça des années 60, d'un moment de révolution, d'un moment de poésie, un moment aussi où Armand Gatti, avec d'autres cinéastes, s'est engagé pour Cuba. Il y a eu un grand mouvement à ce moment-là, au début des années 60, et qui durera jusqu'à la fin des années 60, d'engagement d'un certain nombre de d'artistes et notamment de cinéastes par solidarité avec la toute nouvelle révolution. Par intérêt pour cette expérience, pour Fidel Castro, ont été à Cuba. Alors, ils ont été là-bas très bien accueillis par un institut qui vient... L'une des premières décisions que prend le régime castriste quand il s'installe en matière culturelle, c'est de créer un institut du cinéma qui s'appelle l'ICAIC, et institut du cinéma cubain, et qui va, avec à sa tête un très proche des deux frères Castro, hein, de Raúl et Fidel Castro, qui s'appelle Alfredo Guevara, qui n'a rien à voir avec Che Guevara, décide de lancer des invitations à tout ce qui se fait de plus nouveau, de plus, je dirais, presque révolutionnaire en matière cinématographique. Et alors, vont venir à Cuba, bah, en France, par exemple, Chris Marker, Agnès Varda, Joris Stevens, Carmen, le grand cinéaste soviétique Mikhail Kalatozov, qui a eu la Palme d'Or quelques années plus tôt. On parle même d'inviter Stanley Kubrick, le jeune Cassavetes. Enfin bon, voilà, il y a et ce mouvement va inclure Armand Gatti, qui va être un des fers de lance et qui va créer ce qu'il appelle, c'est un mot qui est chargé d'histoire et qui est aussi un mot très très beau, hein, les brigades internationales du cinéma, pour venir travailler à Cuba dans des conditions évidemment très difficiles, hein, assez précaires, mais pour faire à la fois acte d'engagement et aussi... à travers cet engagement politique, faire un acte d'engagement esthétique, hein, essayer de transformer, de changer, de révolutionner le cinéma.
Et bien là, en l'occurrence, quand on voit ce film, El Otro Cristobal, Antoine Debecq, ce qu'on retient, c'est le côté délirant de l'histoire. On n'est même pas certain d'avoir tout compris film.
Je crois que personne n'a compris ce film. Ça a posé d'ailleurs quelques petits problèmes quand il a été montré. Mais c'est la force du film aussi, c'est-à-dire cette sorte de... Moi, je dirais presque de fable, de merveilleux. Alors, on comprend qu'il y a un révolutionnaire qui s'appelle Cristobal, qui est joué par Jean Bouise, cet acteur français, lui aussi très engagé, qui est très proche d'Armand Gatti. Bouise avait dit « Je viens si on peut me nourrir presque un jour sur deux ». Voilà, c'est vraiment un engagement. Il n'est pas question de contrat, d'argent. Hein, c'est vraiment l'engagement politique qui mène le jeu. Mais c'est vrai que Gatti en profite. Il est dans un contexte où il est à la fois là pour faire de la politique, mais en même temps où il est laissé totalement tranquille, totalement libre de ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que les recherches de Gatti à ce moment-là vont beaucoup puiser vers le merveilleux, la fable. Et ce qu'il trouve à Cuba, c'est quelque chose de très profond qui vient d'Afrique, hein, beaucoup, qui passe aussi beaucoup par la musique, par les rythmes, par... des essais. Alors le chef caméra de Gatti qui s'appelle Jean Charvin va lui proposer de faire des plans totalement inclinés. C'est une histoire qui mêle la terre et le ciel, l'histoire, puisqu'il est question d'une révolution. Donc on a ce Cristobal est une sorte de double de Fidel Castro, mais les enjeux sont véritablement, je dirais, cosmiques. C'est-à-dire que ce qu'il est question de renverser et de révolutionner, c'est pas seulement un pays comme Cuba, c'est, on peut dire, la terre et le ciel, c'est, il est même question, il y a Dieu est joué par le barman du Habana Club, il y a là quelque chose qui est une sorte de délire un peu surréaliste, hein, qui va saisir le cinéma, et donc il y a un projet qui est de, à la fois politique et aussi esthétique. On peut dire que il s'agit de faire politiquement du cinéma onirique, par exemple.
Han escuchado ustedes al contralmirante del espacio, padre de la patria nueva.
Debemos todos marchar sobre la camisa.
Requerido en Europa por asuntos de Estado y de salud, no es el almirantísimo Anastasio, sino el país entero.
Pendant que dans son ancien palais présidentiel s'ouvrait la réunion des États amis, l'amiral avançait vers la première sphère du ciel que contrôlait Ogun Saint-Pierre.
Compañero, vamos a hacer de Tecumán un territorio libre del cielo y de sus dependencias.
Et ce film d'Armand Gatti dans Calotro Cristobal, Antoine Debecq, a été tourné en 1962 à Cuba, c'est-à-dire en pleine crise des fusées, alors que l'île était sous embargo.
Oui, c'était des conditions, tous les témoignages concordent, hein, très précaires. Il y avait l'embargo américain qui était déjà là sur l'île. Et en plus, donc tournage commence en septembre 62. En octobre, c'est la crise des missiles. Hein, on est sur l'endroit le plus chaud de la guerre froide. La planète est au bord de l'implosion. Film se tourne et il est lui-même aussi au bord de l'implosion permanente. Hein, et en même temps, il se nourrit constamment de cette sorte de pauvreté technique, où il faut inventer, puisque voilà, on n'a pas les caméras magnifiques, on n'a pas de quoi faire un montage qui soit absolument parfait. Ben avec ce qu'on a, ben on va bricoler, on va réinventer. Et c'est vrai que le tournage du coup prend assez longtemps, hein, il s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il va fabriquer au fur et à mesure par les improvisations de Gatti, aussi par le sens de la collaboration. Gatti est très bien entouré par des techniciens français et il est là aussi pour former des jeunes techniciens cubains, et il va y avoir une ambiance sur le tournage très solidaire de formation permanente, qui fait que le décorateur qui s'appelle Hubert Monloup propose un décor qui est très impressionnant d'ailleurs, hein,
et très beau, on peut
très
le
beau,
dire
ouais, et très beau, très théâtral aussi, ça fait partie du travail de Gatti. Un Gatti, à l'époque, est connu comme un grand journaliste et grand dramaturge. Il a été monté par Jean Villard et cinéaste aussi. Il a fait un film qui a été primé au Festival de Cannes de 1961 qui s'appelle L'Enclos. Donc voilà, Gatti arrive avec tout ce savoir, ce savoir-faire, et en même temps l'idée de laisser tout ça de côté pour vraiment essayer de fabriquer une forme nouvelle. Le scénario est en partie écrit par Eduardo Manette, qui sera lui aussi très connu ensuite comme un grand écrivain d'origine cubaine, hein, quand il arrivera en France. Donc voilà, il y a toute une équipe qui est au travail et qui est très bien secondée par... ça a été un moment assez fondateur pour un cinéma qui essayait de se mettre en place à Cuba, pour former tous les jeunes techniciens, tous les jeunes acteurs qui sont là. Il y a beaucoup, beaucoup de...
Et que dit l'historien en voyant ce film aujourd'hui, ce film tourné en 62, qui sort aujourd'hui même à l'autre Cristobal? Parce que on a du mal à le restituer dans son contexte politique. Des fois, on ne sait pas si c'est au deuxième ou troisième, quatrième degré qu'il faut prendre cette comédie, parce que il y a un petit côté Tintin en Amérique du Sud dans
ce film. Oui, bien sûr. Il y a aussi cet aspect film d'aventure, comme ça, qui qui est l'historien, il y voit le témoignage de quelque chose qui est à la fois très touchant et qui évidemment aussi avec le temps nous paraît finalement une sorte d'aveuglement par rapport au régime castriste, c'est-à-dire que c'est sûr que voilà, on est dans les premiers moments d'une révolution où on croit que ce qui se passe là, c'est quelque chose qui va changer le monde. Hein. Et donc, et Gatti, il est dans cette croyance-là et il veut changer le monde en changeant le cinéma. Et c'est quand même quelque chose qui est très très beau. Il y a cette sorte de volonté, d'acte comme ça, de création absolue. Alors voilà, c'est quand même ça que moi j'en retiens en tant qu'historien du cinéma, le témoignage d'un moment où tout d'un coup on a l'impression que tout est possible.
L'utopie donc. Le film donc d'Armand Gatti sort aujourd'hui, El Otro Cristobal, Antoine Debecq. Ce film a été oublié, surtout parce qu'il y a eu une dispute entre les producteurs.
Hein. Absolument.
Alors, c'est quoi l'histoire du film?
Bon, c'est une petite histoire, mais qui a des conséquences importantes. Le film est montré quand même au Festival de Cannes. Hein. Il représente Cuba officiellement en 1963. La projection se passe plutôt bien. Bon, les autorités cubaines sont un petit peu dubitatives devant un film comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film? Alors, il sort à Cuba. Il a une carrière à Cuba. Qui est-ce qu'elle est? Mais par contre, il sortira jamais en France ni en Europe, parce que effectivement, il y a une brouille entre le producteur du film qui s'appelle Adam Ulrich, qui n'est pas mentionné dans le générique et qui va se retourner contre le film et empêcher toute exploitation du film. Donc le film va être perdu assez rapidement. On en connaîtra comme ça des témoignages, comme une expérience. Et il va être retrouvé, alors il faut leur rendre hommage, grâce à un chercheur qui s'appelle Sylvain Dreyer, qui va s'intéresser à tout ce cinéma et à tout cet art révolutionnaire des années 60, et qui va à Cuba, après un patient travail de recherche et de forcer un peu des portes, etc., retrouver le négatif original du film, qui va permettre de repartir de cet original pour refaire une copie qui est la copie actuelle, une copie restaurée numériquement. On en avait des traces, au sens où il existait une version qui a même été exploitée en vidéo dans les années 80, mais on a retrouvé grâce à ce chercheur un film qui à la fois fait son temps et en même temps nous arrive comme une sorte de film absolument neuf.
Absolument. Ne serait-ce que pour découvrir Jean Buis dans le rôle d'un espèce de Fidel Castro malgré lui, c'est très très drôle. El Otro Cristobal donc sort enfin en salle, puisqu'on est en septembre et qu'on parlait des grands événements de la rentrée cinéma. Il y a un autre événement qu'on attend avec beaucoup d'impatience, Antoine Debecq, et vous êtes à l'origine de cet événement. Ça se passera en novembre et vous allez organiser cette première édition du Festival de Cannes, qui n'a pas eu lieu en 1939 pour des raisons qu'on devine.
Il se trouve que donc en 1939, Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, décide de créer un festival qui soit un peu le concurrent de la Mostra de Venise, qui est le grand festival de l'époque et qui est sous domination fasciste et même nazie, puisque Goebbels a imposé le palmarès, a imposé Leni Riefenstahl en 1938 comme grand prix.
Donc la riposte, c'est le Festival de Cannes.
Voilà, le Festival de Cannes va se créer en 1939. Il est prêt, la sélection est là, les vedettes sont arrivées, le règlement, le jury. Et puis, 1er septembre 1939, quand le festival doit commencer, les armées allemandes entrent en Pologne, c'est la guerre, on annule tout. Notre idée, c'est pour à la fois rendre hommage à Jean Zay, voilà, qui a cette idée assez visionnaire d'un grand festival des nations libres, et puis pour retrouver quelque chose de la création d'un festival, c'est toujours beau, hein, les premières comme ça. Ça a été de réunir tous les films, en fait, de montrer les 30 films. Pour la première fois, on va pouvoir voir l'ensemble des 30 films qui étaient en sélection officielle en 1939.
70 ans d'écart, donc.
À 80 déjà. Et donc, ça a lieu effectivement à Orléans, qui était la ville de Jean Zay. Jean Zay était député d'Orléans du 12 au 17 novembre. Et on pourra voir ces 30 films qui seront à chaque fois accompagnés d'une présentation.
Il n'y aura pas de jury quand même, non?
Ah si, il y a un jury, oui, évidemment, qui est présidé par Amos Gitaille. Oui, un jury qui décernera. Alors, une palme d'or, ça aurait été à la fois un peu anachronique, parce qu'en 1939, il n'y avait pas de palme d'or, et puis la palme d'or appartient au Festival de Cannes, on lui laisse. Non, un grand prix, le Grand Prix Jean Zay, et puis tous les prix qui vont avec un festival comme le Festival
Même
de
si
Cannes.
Même on ne critique pas, on n'analyse pas, on n'évalue pas un film qui vient de sortir de la même manière qu'un film qui a déjà 80 ans.
Bah, notre idée, c'est quand même de placer, par exemple, les critiques qui viendront. Voilà, il y a le nouveau film d'Hitchcock qui vient de sortir, qui vient d'être montré au Festival de Cannes, qui s'appelle La Taverne de la Jamaïque. Et ben, on va demander aux critiques de réagir comme les critiques cette année ont réagi au nouveau film de Quentin Tarantino. C'est pareil, hein, d'une certaine manière. Et alors, bien sûr, il y a un certain nombre de films qui ont été couronné par l'histoire, hein. Là, le Mr. Smith au Sénat de Capra, Alexandre Nevsky de Eisenstein, même Le Magicien d'Oz, ou alors Elle et lui de Léo Macaré. Enfin, il y a toute une série de chefs-d'œuvre comme ça qui ont été programmés en 1939 au Festival de Cannes. L'idée, c'est vraiment de se retrouver avec la conscience de l'histoire, évidemment, et puis d'une histoire particulièrement lourde, devant ces films comme si c'était la première fois qu'on les voyait.
On ira à Orléans. Les dates, vous les avez, Antoine Debecq ?
12 au 17 novembre.
Merci Antoine Debecq d'être passé ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Cinéma tous les mercredis dans le Réveil culturel et en ce 18 septembre, en plus d'El Otro Cristobal d'Armangati, qui sort, donc c'est un film de 1963, mais qui sort là, c'est un inédit, il y a deux nouveaux films à ne pas manquer, deux films américains, le James Gray, Ad Astra, et le dernier, Woody Allen, Un jour de pluie à New York. Pour nous en parler, Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Commençons par le James Gray. Vous avez tout vu à Venise, hein, donc allez.
Oui, j'ai tout vu et puis j'ai vu tous les films de James Gray. Et je veux dire, c'est un des cinéastes les plus passionnants de la nouvelle génération. Enfin, déjà, il commence à avoir de la bouteille. Ça fait 5 ou 6 films qu'il a réalisés.
Sauf que là, on le trouve dans un autre registre, dans un autre genre de film.
Il change de registre à chaque fois. Ça fait partie de ces cinéastes comme Paul Thomas Anderson ou d'autres qui renouvellent le cinéma américain en s'attaquant à des genres et en les abordant de façon nouvelle. Alors ce
Ad Astra, qu'est-ce qu'il raconte?
Alors Ad Astra, c'est intéressant parce qu'il y avait plusieurs films à Venise sur ce thème de la filiation. C'est un fils qui part en cosmonaute dans la galaxie à la recherche de son père qui a été un grand cosmonaute et qui a disparu dans l'espace et qu'il s'est chargé de retrouver, de rétablir le contact avec lui 10 ans ou 20 ans après son départ. Il ne l'a plus retrouvé. Donc c'est le rapport de la filiation qui est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de films de James Gray, qui sont liés évidemment aussi au milieu qu'il décrit, le milieu irlandais, le milieu italien, etc. Dans les films de gangsters en particulier. Mais ici, il s'agit d'un film de science-fiction qui est certainement un des films de science-fiction les plus matures, comme on dit, ou les plus mûrs qu'on ait réalisé, qui est pas seulement un déploiement de techniques éblouissantes, évidemment, mais aussi une sorte d'odyssée de l'espace. Le film a été mieux accueilli que celui de Stanley Kubrick. On se rappelle que la critique avait assassiné 2001. Donc le film a été mal accueilli à Venise, ou pas très, en tout cas controversé, mais c'est néanmoins une date marquante. Il semblerait que la science-fiction ait des problèmes avec la critique. Moi, je défends beaucoup ce film, qui est magnifiquement interprété par Brad Pitt, qui réussit à ne pas être noyé dans les effets spéciaux, mais à imposer un rôle tout à fait anxieux et en même temps de respect pour son père qu'il veut absolument retrouver.
Brad Pitt, mais aussi Tommy Lee Jones et Donald Sutherland le dernier film de James Gray, Ad Astra.
Tommy Lee Jones, c'est le père.
Et l'autre film, très attendu du coup, peut-être pas uniquement pour des raisons de cinéma ou des raisons cinéphiliques, c'est le dernier Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui sort aujourd'hui. Puisqu'il vous a accordé une longue interview, passionnante interview, dans le dernier numéro de Positif que vous dirigez, Michel Simon. Que raconte ce film et que pensez-vous du cinéma de Woody Allen ?
Bon, écoutez, d'abord, je vais répéter une banalité, c'est le plus grand auteur de comédie vivant au monde. Quand il disparaîtra, il a déjà 83 ans et il est en pleine forme, quand il disparaîtra, on se rend compte que les 50 ou 55 films qu'il avait réalisés, c'est une richesse, d'une variété et d'une invention étonnante. Et d'ailleurs, avec Clint Eastwood, dont on a vu le très beau film La Mule au début d'année, on se rend compte que les octogénaires se portent très bien, surtout s'ils sont comédiens et metteurs en scène. Mais Woody Allen ne joue pas dans son film. Ce film est un film effectivement assez romantique. C'est un film sur New York. On sait que Woody Allen aime les grandes villes. Il aime Paris, il aime New York, il aime Rome. Il aime faire le shopping, il aime visiter les musées. On n'imagine pas Woody Allen faisant un western, par exemple. Ça paraît dérisoire. Ce qui est très intéressant, c'est la structure du film, c'est ce qu'il explique dans l'entretien qu'il nous a donné. C'est la difficulté de mener deux histoires parallèles, puisque au départ, c'est un couple de jeunes étudiants à l'université. Elle part à New York pour faire une interview d'un metteur en scène. De milieu que Woody Allen connaît très bien, et son petit ami lui dit profitons-en pour je me joins à toi et je vais te faire découvrir New York, parce que moi je suis de New York, elle vient du Texas ou de l'Arizona, je sais plus, enfin de pays très lointain à l'ouest. Et puis dès le début, ils se séparent. Et à elle, il arrive des tas d'aventures, et à lui, il lui arrive aussi des tas d'aventures. Et ce que dit Woody Allen est très juste. Ce qui est très difficile quand on a deux histoires parallèles, c'est de maintenir l'intérêt égal pour les deux histoires, parce que les gens peuvent se dire « Ah non, vite qu'on revienne au premier, c'est plus intéressant que le second ». Et ce qui est brillant dans ce film, grâce aux interprètes, c'est que les deux personnages sont extrêmement passionnants. Tout ce qui leur arrive est fondé sur l'humour, même s'il y a des choses assez critiques sur la haute société new-yorkaise. Woody Allen a gardé son regard très incisif, mais c'est un film merveilleux.
Ce dernier film de Woody Allen qui sort aujourd'hui, Un jour de pluie à New York. Woody Allen donc interviewé dans votre revue de cinéma Positif. Michel Simon, on écoute juste un extrait de cette interview.
Big cities, to me, are the most romantic atmospheres. I love, you know, New York and Paris and London and, you know, big cities. And to me, they're always at their most beautiful in the rain.
Il aime les grandes villes, New York, mais ce qu'il vous dit, Woody Allen, dans cet entretien qu'il vous accorde, à vous, Michel Simon, et à votre collègue Grégory Valence, dans le dernier numéro de Positif, Woody Allen déclare qu'il voulait filmer New York sous la pluie, et qu'il aurait demandé si c'était faisable à Vittorio Storaro, grand chef opérateur, il travaille qu'avec les grands chefs de la photo, Woody Allen, et il lui a demandé si c'était possible, et Vittorio Storaro lui a dit, mais bien sûr, mais à une condition que la pluie n'arrive pas tout de suite au début du film, mais après.
Oui, ça montre deux choses. D'une part, que Woody Allen a toujours fait appel au plus grand chef opérateur, Darius Conji, Sven Nykvist, qui était l'opérateur de Bergman, Carlo Di Palma, etc. Et que ces films, au début, étaient pas tellement remarqués par leurs photos, et que très vite, il a su s'en tirer des meilleurs. Et cette deuxième remarque, c'est il est à l'écoute, justement, des chefs opérateurs. Cette idée vient de Storaro, il l'a adoptée. Et c'est assez rare que les comédies bénéficient d'une très belle photo. Et avec Woody Allen, on se rend compte qu'il reste un grand cinéaste de mots, bien sûr, c'est un dialoguiste formidable, mais aussi un grand visuel.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et on peut aller donc au cinéma aujourd'hui voir El Otro Cristobal d'Armand Gatti, un inédit, un film tourné à Cuba dans les années 60 et qui sort enfin aujourd'hui au cinéma. Et on peut voir les tout derniers films de James Gray et de Woody Allen, vivement recommandé par Michel Simon. Le film de James Gray, c'est Ad Astra, et le film de Woody Allen, c'est Un jour de pluie à New York. Merci Michel d'être passé.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, découvrir, décrypter, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Ça sonne quasiment pareil, mais ce ne sont pas les mêmes. La cinéaste Céline Sciamma et la secrétaire d'État Marlène Schiappa sont nos invités ce mercredi dans les matins.
Les matins de France Culture, ce mercredi dès 7h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Faute de coalition, l'Espagne va organiser de nouvelles élections législatives. Les partis politiques ne trouvent aucun terrain d'entente, vous l'entendrez dans un instant. Parole donnée aussi à Benjamin Netanyahou. Si les résultats des élections d'hier en Israël ne sont pas encore connus, le Premier ministre sortant promet déjà de trouver une coalition avec la droite et avec les religieux. Dans ce journal aussi, le patron de Total nous dira pourquoi il s'inquiète de la situation au Moyen-Orient en ce moment. Et puis un chercheur du CNRS nous donnera les pistes pour limiter le réchauffement climatique. Il pourrait finalement atteindre les 7 degrés d'ici 2100. Comme un air de déjà-vu en Espagne. 5 mois après les législatives, les partis politiques n'ont pas réussi à former un gouvernement de coalition. Le roi Philippe VI a donc annoncé de nouvelles élections prévues le 10 novembre prochain. Ce seront les 4e en 4 ans, Mathieu de Taillac.
Un à un, les dirigeants des principaux partis politiques ont expliqué pourquoi ils ne voteraient pas l'investiture du socialiste Pedro Sanchez. Pour Podemos, de gauche radicale, Pablo Iglesias a indiqué qu'il souhaitait un gouvernement de coalition refusé par les socialistes, alors que ces derniers acceptaient encore d'en négocier les termes en juillet dernier. Chez les libéraux de Ciudadanos, Albert Rivera s'est scandalisé que Sanchez n'accepte pas 3 conditions soumises au dernier moment aux socialistes. Et au Parti populaire, le PP de droite, Pablo Casado a expliqué qu'il ne pouvait pas voter pour son principal adversaire. Quant à Pedro Sanchez, il a mis en cause tous les autres.
J'ai essayé de toutes les manières possibles, mais cela s'est avéré impossible. Malheureusement, 2 formations politiques conservatrices et 1 formation politique de gauche ont préféré bloquer la formation d'un gouvernement que réclamaient les urnes.
Voilà au moins une unité de discours parmi les grands partis. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est le grand argument de chaque formation pour expliquer l'immense gâchis du temps et de la patience des Espagnols qui avaient voté massivement le 28 avril dernier. Les conseillers de Pedro Sanchez croient savoir qu'il pourrait améliorer son score dans 2 mois. Le ras-le-bol de la population pourrait au contraire se traduire par une abstention à gauche.
En Italie, c'est la gauche qui est au pouvoir via l'alliance entre les populistes des 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Une alliance qui avait vu le jour notamment grâce à Matteo Renzi. Mais alors que le gouvernement entre en fonction cette semaine, l'ancien président du Conseil crée sa propre formation et donc il quitte le Parti démocrate, Bruce de Gelsin.
C'est au sein même du Parti démocrate que les réactions sont les plus vives. Cela désole le secrétaire du parti pour qui Matteo Renzi fait une erreur. Ce sont les divisions qui ont fait triompher Mussolini, affirme un autre leader démocrate. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a lui été prévenu le premier par un appel de Matteo Renzi. S'il ne commente pas officiellement, cet appel l'a laissé perplexe, notamment le moment choisi, le jour même où le gouvernement au complet prenait ses fonctions. Un départ orchestré en effet, mais Matteo Renzi affirme dans La Repubblica qu'il soutiendra le gouvernement et que son nouveau parti ne se présentera pas aux élections avant 2023. Il peut compter sur 30 de parlementaires et pourrait ainsi créer un groupe autonome afin d'être davantage écouté dans la majorité. Cette scission, il l'a voulu car son parti est devenu un ensemble de courants, dit-il, et qu'il était lui un intrus. Matteo Renzi veut occuper le centre de l'échiquier politique. Il aura des vues sur les déçus de Forza Italia, ceux qui veulent quitter le parti de Silvio Berlusconi. Mais il le dit aussi, ce qui restera sur son CV et ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir renvoyé Matteo Salvini, qu'il veut continuer à combattre.
Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle en Tunisie sont connus. Deux candidats hors système vont s'affronter. Il s'agit du juriste austère Kais Saïd et du mania controversé des médias Nabil Karoui, qui est en prison depuis plus de 3 semaines maintenant. Le second tour de cette présidentielle tunisienne est prévu au début du mois d'octobre. C'est en revanche encore flou en Israël au lendemain des législatives. Sachant que la majorité absolue est de 61 sièges, les dernières estimations n'arrive pas à départager le bloc de droite avec le Likoud de Benjamin Netanyahou et le bloc de centre-gauche avec le mouvement bleu-blanc de Benny Gantz. Le nationaliste laïque Lieberman, qui a pris ses distances avec Netanyahou, recueillerait lui une dizaine de sièges. Il serait donc faiseur de roi. Les résultats devraient tomber dans la journée. Et en attendant, le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, promettait déjà hier soir une coalition avec tous les partis de droite et les religieux.
J'ai parlé ce soir avec tous les partenaires du Likoud. Nous sommes tous d'accord pour avancer ensemble. Dans les jours qui viennent, nous allons négocier pour former un gouvernement fort, sioniste, et pour éviter l'installation d'un gouvernement dangereux et anti-sioniste. Je veux continuer à protéger le peuple d'Israël.
C'était Benjamin Netanyahou, traduit par notre correspondant Frédéric Mettezo, que nous retrouverons lors du journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Pour l'instant, il est 6h passé de 35 minutes. Le ministre des Affaires étrangères américain est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite. Mike Pompeo doit y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il s'agira, dit le département d'État américain, de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région. Ce week-end, 2 sites pétroliers en Arabie Saoudite ont été touchés par des raids aériens. Washington accuse l'Iran, mais cherche des preuves. Et ces attaques de drones ont provoqué depuis le week-end une hausse des prix du baril de pétrole, la production saoudienne ayant diminué de moitié. En France, le gouvernement a déjà demandé au groupe pétrolier de modérer une éventuelle hausse de prix à la pompe. Message reçu par Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Il était auditionné hier par les députés de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et il en a tout de même profité pour faire part de ses craintes quant à la situation au Moyen-Orient.
Je suis, pour être honnête, profondément inquiet. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire du Moyen-Orient une telle attaque entre des pays du Golfe. Jamais. Même au pire moment de l'Irak et de l'Iran, il y avait eu des installations attaquées, mais qui étaient beaucoup plus faibles. C'est un sujet important. Alors, pour vous rassurer, entre guillemets, sur le prix à l'essence, c'est vrai que je comprends la réaction. Hier, pétrole prenait 10%, aujourd'hui, il en perdait 4%. On va voir comment tout ça va s'équilibrer. En gros, 10% pourrait faire au maximum un impact de 5 centimes. En tout cas, j'ai bien entendu les appels du gouvernement. Je peux vous garantir que nous veillerons à ce que c'est pas dans cette période-là qu'on va chercher à gagner plus.
C'était Patrick Pouyanné, le PDG de Total, devant la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Près de 800 migrants ont été évacués hier du campement de Grande-Synthe dans le Nord. Les autorités parlent d'une opération de mise à l'abri. C'est insuffisant, répondent déjà les associations qui prévoient le retour rapide des migrants sur les lieux. À l'occasion de la journée de la qualité de l'air, plusieurs grandes associations environnementales, notamment WWF France, Greenpeace ou Réseau Action Climat, pointent ce matin du doigt la responsabilité de l'État en matière de qualité de l'air. Elle dénonce notamment sur franceinfo.fr la dieselisation du parc automobile et un air trop toxique dans le pays. Un air surtout de plus en plus chaud. Hier, les scientifiques français dévoilaient leur étude alarmiste. Les températures n'augmenteront pas de 4,8 degrés, mais de 7 degrés d'ici 2100. En tout cas, si rien n'est fait d'ici là pour limiter le réchauffement climatique. Avec des efforts, ce réchauffement pourrait se limiter à 2 degrés, mais ils doivent être colossaux. Voilà ce que dit Olivier Boucher. Il est chercheur à l'Institut Pierre-Simon Leplace.
Les scénarios les plus optimistes nécessitent de réduire les émissions le plus rapidement possible. Malheureusement, ça risque d'être pas être suffisant et il faut effectivement aller rechercher le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et une manière de faire cela, c'est en plantant des arbres, de la biomasse. On récupère le CO2, on le stocke dans les sous-sols de manière à faire diminuer les concentrations atmosphériques. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est réaliste, si c'est faisable. Disons que sur le papier, c'est possible, mais il y a des grosses interrogations sur la mise à l'échelle. Est-ce qu'on peut atteindre les milliards milliards de tonnes de CO2 qu'il faut retirer dans l'atmosphère dont on parle dans ces scénarios. Donc là, il y a encore des incertitudes et des interrogations.
Ça veut dire quoi concrètement ? Planter combien d'arbres ? On parle de milliards d'arbres.
Ça veut dire consacrer des millions d'hectares à la culture, à des cultures qui sont là pour essentiellement aller retirer du CO2 de l'atmosphère. On peut aussi réfléchir à des moyens plus industriels d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est d'autres techniques pour lesquelles il existe des prototypes, mais là aussi, il y a vraiment une question de faisabilité, de mise à l'échelle en termes économiques, en termes de ressources aussi et d'énergie.
C'était Olivier Boucher de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il répondait à Véronique Robérotte. Et ce mercredi encore, il fera chaud et beau pour un 18 septembre. Seul le sud des Cévennes et des Pyrénées pourront éventuellement connaître un risque d'averse orageuse. Comptez ce matin 15 degrés à Besançon, 16 à Paris, Lille, Rennes, 20 degrés à Lyon, 22 à Bordeaux, 25 à Marseille et sur la Corse ce matin. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture et vous revenez Jacques justement sur ces projections inquiétantes d'experts français. Je le disais, les températures pourraient augmenter de 7 degrés d'ici 2100.
Dans le scénario le plus redouté et le plus grave, effectivement Clara, c'est le monde qu'il révèle. Les plus grands laboratoires de climatologie du pays sont engagés dans un vaste exercice de simulation du climat passé et futur qui servira de référence au prochain rapport du GIEC. Audrey Garic précise qu'une vingtaine de centres américains, européens, chinois ou japonais ont réalisé ces dernières années des centaines de modélisations pour mieux comprendre les changements climatiques, mais aussi pour tester la fiabilité de leurs modèles en les comparant aux observations et à d'autres modèles. En France, je cite, « cette tâche colossale a impliqué une centaine de chercheurs et d'ingénieurs qui ont simulé plus de 80 000 ans d'évolution du climat en utilisant des supercalculateurs jour et nuit pendant une année, nécessitant 500 millions d'heures de calcul et générant 20 pétaoctets, 20 millions de milliards d'octets de données. » Comment expliquer ces résultats plus sombres que prévus par les anciennes projections ? Nos nouveaux modèles ont beaucoup progressé et reproduisent mieux le climat observé. Ils simulent plus de réchauffement en réponse au CO2 que l'ancienne génération, explique Olivier Boucher, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace. L'une des raisons est une rétroaction plus forte due à la vapeur d'eau. Un monde plus chaud est aussi un monde plus humide. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre qui amplifie le réchauffement climatique. L'hebdomadaire Le 1 s'intéresse au décalage entre ces projections de plus en plus fiables et les lenteurs de la prise de conscience collective et publique, notamment du fait de la désinformation orchestrée par les lobbies du pétrole et de l'automobile. Le climatologue Hervé Le Treut, spécialiste de la modélisation climatique, a contribué à plusieurs rapports du GIEC et participé au comité de pilotage de la COP21. Il explique que le terme climato-sceptique est indu et dévoyé, tout scientifique se devant d'être sceptique. C'est d'ailleurs la faille où se sont engouffrés les lobbyistes des énergies carbonées. La science, parce qu'elle suit une éthique, ce qui fait aussi sa force, est facile à contester. Les premiers rapports du GIEC évoquaient un faisceau de présomptions très clair, résume Hervé Le Treut. Cela aurait dû être suffisant pour afficher et utiliser le principe de précaution inscrit dans notre Constitution, même s'il était nécessaire d'attendre pour observer les véritables manifestations du réchauffement climatique. Le climatologue utilise l'image du puzzle pour expliquer comment les présomptions se sont progressivement confirmées. Le changement climatique est apparu pièce par pièce. Et c'est comme un visage que vous reconstruisez. Lorsque vous commencez à le distinguer, vous savez que ses traits ne sont déjà plus dus au hasard. Pendant ce temps, les marchands de doute ont été très actifs, voire agressifs, produisant des faux et intimidant les scientifiques. Le changement climatique est un problème scientifiquement compliqué. Il a fallu des années pour comprendre la nature du rayonnement solaire qui pénètre la Terre, du rayonnement infrarouge qui s'en échappe et des gaz à effet de serre qui empêchent la planète de refroidir. À première vue, ça paraît simple, mais les principes physiques, pourtant incontestables, qui sous-tendent ces explications, sont contestés par des scientifiques négationnistes qui peuvent être réfutés, mais installent dans l'opinion publique l'idée qu'il y a débat. Et les démagogues s'engouffrent dans la brèche. Les fake news sont alors un instrument de conquête et d'exercice du pouvoir, observe le philosophe Pierre André. Les élucubrations de Donald Trump sur le changement climatique, tantôt un complot chinois, tantôt un refroidissement global, ont ainsi pu jouer un rôle stratégique dans sa campagne électorale, en déclarant que rien ne viendrait remettre en cause l'American Way of Life. Il rassurait une partie de son électorat. Tabac, amiante, émissions de CO2, on le sait, les industriels sont passés maîtres dans la coalition du mensonge et du chiffre d'affaires. L'expression est de Fabrice Nicolino dans son enquête sur les pesticides, publiée aux éditions Les Liens qui Libèrent, sous le titre « Le crime était presque parfait ». À cette alliance objective des intérêts de quelques dirigeants et actionnaires, il faut ajouter la bureaucratie qui pèse de toutes les ressources de son inertie pour bloquer la décision publique. Le journaliste s'en prend notamment à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, censée nous protéger. Le feuilleton est édifiant, qui montre jusqu'où le lobby des pesticides est installé en profondeur dans l'appareil d'État. En résumé, cette formule d'Anna Arendt dans son livre « Du mensonge à la violence », où elle décrit un système complexe de bureaux où ni un seul, ni les meilleurs, ni le petit nombre, ni la majorité, personne ne peut être tenu pour responsable et que l'on peut justement qualifier de règne de l'anonyme.
C'est bien. Hein.
Bonjour, bonjour Julie Gacon.
Bonjour à vous et bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, Julie, jusqu'où peut aller la nouvelle IRA, la nouvelle armée républicaine irlandaise?
Oui, cette nouvelle IRA créée en 2012 a revendiqué 8 attentats ou tentatives d'attentats depuis le début de l'année. La semaine dernière encore, la police irlandaise lui impute une attaque au cocktail Molotov contre 80 officiers irlandais dans la ville de Londonderry ou Derry, ville qui est au cœur aujourd'hui de ces résurgences de violence, Londonderry précisément, où avaient été massacrés 14 hommes et adolescents le 30 janvier 1972, un dimanche bien sûr. Bonjour Agnès Maillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis non pas Belfast mais Dublin en Irlande où vous êtes maître de conférence et où il est 5h45. Combien de membres compte aujourd'hui cette nouvelle IRA et faut-il dire des combattants?
Alors, selon les estimations de la police nord-irlandaise, il serait une petite centaine avec un noyau dur qui comprend des anciens membres de l'IRA provisoire, donc celle qui a été active pendant toutes les années du conflit. Sans membres, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs, évidemment, et ils bénéficient d'un soutien beaucoup plus passif d'à peu près 500 personnes. Donc on parle quand même d'un groupuscule qui fait partie d'une nébuleuse de groupes qui se revendiquent de la dissidence républicaine en Irlande du Nord.
Avec par exemple le groupe IRA Continuité ou des groupes un peu spontanés créés par des jeunes comme le Boxside Republican News, c'est un groupement de groupuscules, si on peut dire.
Oui, absolument. Alors le IRA Continuité, elle est beaucoup plus ancienne puisqu'elle date de 1986. Et elle a à son actif un certain nombre d'attentats derrière elle. Les petits groupes qui se forment et qui se déforment sont plutôt des groupes qui se composent à l'occasion d'un événement spécifique, mais qui en général ont une durée de vie assez limitée. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces groupes ne sont pas du tout organisés entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne collaborent pas. Donc on ne parle pas d'une organisation globale des dissidents. Au contraire, même, ils sont très territoriaux, donc ils ont tendance à vouloir défendre leur territoire et justement à garder leur soutien. Et donc ils ne cherchent pas du tout à travailler ensemble.
D'ailleurs, Boxside, c'est un quartier de Belfast. Cette nouvelle IRA
De Derry.
Cette nouvelle IRA a manifestement trouvé des armes malgré le processus de désarmement qui est censé s'être achevé en 2015. Qui a pu fournir des armes à l'IRA? Est-ce que ce sont les anciens qui avaient réussi à en conserver?
Alors c'est possible qu'ils en aient conservé quelques-uns. Après, l'Irlande du Nord, c'est aussi un terrain où il y a énormément de crimes organisés, donc se procurer des armes, c'est pas très compliqué. Les armes dont on voit l'utilisation, ce sont aussi souvent des armes fabriquées maison. Donc, pour l'instant, en tout cas, l'armement, ça ne semble pas poser de problème. Il s'agit pas non plus d'un armement du type de celui dont avait bénéficié l'IRA provisoire, qui était beaucoup plus professionnel.
Depuis le début de l'année, cette nouvelle IRA a revendiqué notamment l'explosion d'une voiture piégée en janvier devant le tribunal de Derry ou de Londonderry. On ne dit pas la même chose selon qu'on se place du point de vue républicain, nationaliste ou unioniste. Il a également été à l'origine, enfin le 18 avril, une journaliste indépendante a été tuée par une balle destinée à un policier dans un quartier catholique de la ville. Est-ce que cette nouvelle IRA a la même capacité, malgré son très faible nombre de membres, est-ce que cette nouvelle IRA a la même capacité de déstabilisation que l'IRA dans les années 70 et 80?
Ah non, absolument pas. Absolument pas. Quand on voit le contexte dans lequel opérait l'IRA provisoire au début des années 70, quand on voit le soutien dont elle bénéficiait, le déploiement militaire de la part des Britanniques, les contextes sont entièrement différents. Donc ce qu'on peut dire sur cette nouvelle IRA, c'est que, évidemment, c'est toujours inquiétant de voir qu'il y a un certain nombre d'irréductibles qui refusent encore et toujours le processus de paix, les accords de 98.
L'accord du vendredi saint.
Voilà, mais en revanche, ils sont quand même groupusculaires. Ils n'ont pas du tout de discours politique qui accompagne leurs actions. C'est très sporadique. Donc, pour l'instant, on est face à une menace parce que dès qu'il y a un groupe armé, il y a une menace de violente. Mais on n'est pas du tout dans la même logique de celle du début du conflit dans les années 70.
Alors, pas de discours politique, dites-vous. Comment se positionnent-ils et le font-ils? Prennent-ils publiquement la parole sur la question du Brexit, la menace du retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, en tout cas en cas de sortie du Royaume-Uni sans accord? Est-ce que ça fait partie des choses qu'ils mettent en avant aujourd'hui?
Alors, c'est évidemment une aubaine. Hein, cette menace qui pèse depuis 3 ans sur l'Irlande du Nord, enfin entre les deux Irlandes, d'un retour à une frontière, d'un retour à des postes frontaliers, des contrôles, etc. Ça peut être exploité par ce type d'organisation pour bien démontrer que cette frontière est toxique, qu'elle peut générer un retour de la violence. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose dont ils peuvent bénéficier, qu'ils peuvent exploiter. Mais c'est surtout, en fait, l'attention dont bénéficie l'Irlande du Nord, par ailleurs, à cause du Brexit, qui fait que toute action revendiquée par l'IRA, la nouvelle IRA ou l'IRA de continuité, va immédiatement avoir une portée médiatique qu'elle n'aurait pas autrement.
Elle va être lue à l'aune du Brexit.
Évidemment. Et puis, on va en parler surtout. Alors qu'il y a quelques années, ce type d'action, par exemple, le fait que la police trouve un colis piégé sous une voiture, qu'ils arrivent à déjouer un attentat, etc., je pense qu'on en aurait parlé en Irlande, mais pas forcément dans le monde entier. Donc, ils sont très conscients du fait que toute action de leur part va attirer l'attention des médias internationaux. Et du coup, ils jouent là-dessus. Ils n'ont pas un discours très développé autour du Brexit, parce que pour l'instant, en fait, c'est tellement tout semble tellement indéterminé, indécis. On ne sait absolument pas où ça va, que la seule chose qu'ils disent, c'est s'il y a une frontière en dur, ça sera un retour à la violence. Et donc, ils se positionnent par rapport à ça. Mais eux-mêmes n'ont pas de solution à proposer pour le Brexit.
Agnès Maillot, ces tensions communautaires, vous écrivez dans votre livre « L'IRA et le conflit nord-irlandais » qu'elles ne sont pas sans lien avec une société au ralenti, avec un fort taux de chômage et d'échecs scolaires. Mais par ailleurs, est-ce que la foi catholique est toujours un élément fort de l'identité irlandaise? Est-ce que les églises sont pleines? Est-ce que les jeunes y vont? Est-ce qu'ils parlent gaélique par ailleurs?
En Irlande du Nord.
Oui, en Irlande du Nord.
Alors, en Irlande du Nord, ce qu'on a constaté comme en République, une baisse très spectaculaire de la foi catholique, ou du moins de la pratique catholique. En Irlande du Nord, ça reste un élément d'identification pour beaucoup de gens, mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont toute une génération qui ne se revendique plus comme étant soit catholique, nationaliste, républicain, soit protestant, unioniste, loyaliste. Et on voit, on estime maintenant à entre 15 et 20% le nombre de gens qui ne votent plus selon ces affiliations identitaires traditionnelles et qui se situent en dehors de cette binarité politique. Et donc qui ont plus tendance à voter pour des partis non alignés.
Alors, il se trouve qu'a lieu aujourd'hui, Agnès Maillot, l'audition d'un vétéran britannique poursuivi pour le meurtre de deux hommes et les tentatives de meurtre de quatre autres militaires qui faisaient partie du régiment de parachutistes envoyé sur place lors du Bloody Sunday, à Derry le 30 janvier 1972, à Londonderry. Qu'est-ce qu'on attend de plus aujourd'hui de cette audition préliminaire à un éventuel procès ? J'ai dit qu'est-ce qu'on attend de plus parce que plusieurs militaires ont déjà été envoyés en prison. Un rapport de 10 volumes avait déjà paru en 1998 lors de l'accord du Vendredi Saint pour établir la vérité sur les faits. Qu'est-ce que cette audition préliminaire à un éventuel procès 47 ans après les faits peut apporter de plus ?
Alors, je pense que, d'une part, quand vous dites plusieurs militaires ont été envoyés en prison, c'est vrai, ils sont 4. Ah oui. 4 sur toute la durée du conflit. Or, on sait que l'armée britannique est responsable de environ 10 à 11% de toutes les morts pendant le conflit, c'est-à-dire 350 personnes, dont la plupart étaient des civils. Donc, pour l'instant, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine impunité au regard de l'armée britannique. Les 4 personnes, les 4 soldats qui ont été envoyés en prison, qui ont fait de la prison 5 ans pour assassinat, et après, ils ont pu rejoindre les rangs de l'armée britannique. Donc, ce qu'on attend de cette audience et de ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est que c'est pas nécessairement d'envoyer ce soldat-là en prison, il doit approcher des 70 ans, mais c'est surtout de mettre fin à ce sentiment d'impunité qui est ressenti très fortement par évidemment la communauté catholique et de dire voilà, ils ont pendant 50 ans il y a eu une guerre larvée, une guerre civile, un conflit, au cours duquel très peu de membres de l'armée britannique ou des forces de l'ordre ont été inquiétés, ont été traduits devant des tribunaux. Et là, c'est la première fois que quelqu'un, un soldat responsable durant Bloody Sunday, est traduit devant les tribunaux. Ils étaient au départ 16. À pouvoir être potentiellement accusé. Il n'y en a qu'un contre lequel il y a eu suffisamment de preuves retenues pour aboutir la procédure, mais c'est symboliquement extrêmement important, parce que ça envoie un message très clair à la société nord-irlandaise, c'est de dire on essaye de mettre fin à ce sentiment d'impunité qui a existé pendant tellement longtemps.
Celui qu'on appelle le soldat F devrait recevoir l'appui, en tout cas du gouvernement britannique. Theresa May avait promis de prendre en charge sa défense. Merci beaucoup Agnès Maillot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, L'IRA et le conflit nord-irlandais. Il a paru aux presses universitaires de Caen. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce nouveau numéro, un grand dossier sur l'âme humaine. Sommes-nous tous malades ? Des débuts de la psychiatrie à la psychanalyse et aux neurosciences, des soignants racontent. À découvrir également, Le Serpent, un animal injustement mal aimé. Un entretien hommage avec Michel Serres et une rencontre exceptionnelle avec Martine Monteil, une vie au service de la police. Papier, disponible en kiosque et en librairie.
6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon et bonjour à tous.
C'est votre humeur du jour. Ça fait combien de temps, Guillaume Erner, que vous n'avez pas regardé le ciel ?
Oh, c'est gentil, Julie, de vous inquiéter de mon sort. Mais il est encore le temps de lever les yeux au ciel, parce que le jour se lève aux environs de 7h30 sur la France métropolitaine. Levez les yeux, enfin si vous êtes dans une grande ville, levez les yeux et vous ne verrez rien. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, sauf un gros bout de lune, hein, puisque ce week-end week-end, c'était la pleine lune, mais pour le reste, le ciel des villes, grande et moins grande, est désespérément vide. La faute à la lumière qui demeure, la pollution lumineuse. Et c'est paradoxal, puisque si le siècle des lumières fut le siècle des lumières, c'est peut-être parce que le ciel nocturne était un vrai ciel nocturne. Et c'est vrai que le ciel n'existe plus presque. On a plus de chances de croiser un chevreuil en plein Bordeaux, en plein Paris, que de voir une étoile. C'est à croire que quelqu'un s'est glissé dans le ciel pour les décrocher toutes. Et si l'on demandait à voir les étoiles de nouveau? Voir les étoiles parce que nous avons besoin de soleil, certes, mais on pourrait tout aussi bien avoir besoin de voie lactée dans ces conditions. Pourquoi ne pas réclamer un droit à l'obscurité ici et maintenant? C'est par exemple ce que fait Ramzik Kocheyan dans un livre intitulé « Les besoins artificiels, pourquoi ne pas réclamer le droit au noir » qui permettrait de contempler à nouveau les étoiles, une manière de transporter les villes à la campagne, puisqu'à chaque fois que je suis à la campagne, je suis frappé par la richesse du ciel et après tout, voir Jupiter, ça vaut bien des paysages. Ce n'est plus à démontrer, la lumière perpétuelle est une agression, c'est une manière de dérégler notre organisme, dit-on, qui a besoin de ne rien voir un moment pour pouvoir voir à d'autres moments. Voilà pourquoi on pourrait songer à demander une extinction des feux, pour toutes les raisons d'ailleurs qu'on imagine, les économies d'énergie au premier chef, mais pas uniquement demander d'éteindre les lumières uniquement parce que c'est beau. Nos plus claires idées sont filles d'un travail obscur, disait Paul Valéry. Alors, éteignez les lumières, il ne fait pas encore jour.